Bonjour les amis de RVM 93.7, nous voici pour notre 127e émission de À votre santé. Ici Daniel Cléo au micro et à côté de moi...
Christian Max.
Alors Christian, les nouvelles du front.
Les nouvelles, eh ben, elles sont à la fois bonnes et pas bonnes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, ben, le taux d'incidence nationale qui était de 2811 la semaine dernière, il est à 3098 cette semaine, donc ça c'est pas bon. Par contre, le taux de reproduction, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le virus se propage, il était de 1,6 la semaine dernière, il est de 1,13 cette semaine.
Donc.
Et je continue avec les bonnes nouvelles. La tension hospitalière a diminué de 3% par rapport à la semaine dernière. Et le nombre de patients en soins critiques également a diminué, puisqu'on est passé de 3985 à 3852. Par contre, là où il y a une moins bonne nouvelle, c'est que le nombre de décès jour, lui, il a augmenté. On est passé de 205 à 213.
D'accord.
Alors ouais. Précisons que les gens qui sont en soins critiques et ceux qui décèdent, malheureusement pour eux, bah, c'est du delta.
On est toujours dans le delta, c'est pas le...
J'ai entendu ce matin un médecin spécialiste disait que les décès dus à Omicron, c'est à peu près... Enfin, plutôt les gens qui sont en soins critiques dus à Omicron, c'est à peu près 200 sur 3800. Alors, dans l'Oise, puisque c'est quand même ça qui nous concerne le plus,
c'est vrai.
Le taux d'incidence a augmenté. Il est passé à 3323, donc c'était la date, c'était le 16. La Somme et l'Aisne aussi ont augmenté, mais ils sont quand même à 1000 de moins. Hein. Le pire, c'est la Guadeloupe avec 4534. Et je rappelle, le taux national, hein, c'est 3098.
Et est-ce qu'on a une image sur les soins critiques ? Est-ce que ce sont des gens vaccinés ou pas ? Voilà.
La tension hospitalière,
voilà.
Elle est de 92%, donc elle a diminué dans l'Oise.
Oui.
Par contre, on a plus d'hospitalisés, mais on a moins de réanimations.
D'accord.
Donc c'est pour ça que la tension hospitalière a diminué. Et par contre, le nombre de décès quotidiens a augmenté. Il est passé de 2 à 3.
Oui, c'est curieux, oui.
Non, de 1 à 3, pardon.
Donc, de 1 à 3, oui.
Bah, c'est peut-être ça libère des lits.
Ouais.
C'est très cynique ce que je dis, mais bon.
C'est vrai.
Et la tranche d'âge la plus impactée donc, par les variants Omicron, bah, c'est la 10-19 ans. Et qui sont à 5741, alors que le taux moyen dans l'Oise est 3323 et le taux national 3098.
Mmh. Voilà. Ce ne sont pas des anciens.
C'est les jeunes qui trinquent en ce moment.
Terrible, oui.
Mais alors la vaccination, elle continue à progresser puisque 79,6% des Français vaccinables ont reçu au moins une dose. Hein, la semaine dernière, c'était 79,1%. Toutes les doses, on est à 77,6% alors que la semaine dernière, c'était 77,2%. Voilà.
Ça monte.
Les moins vaccinés restent toujours les 12-17 ans, mais c'est normal puisque ça vient de commencer.
Oui.
Donc voilà pour les nouvelles du front. Alors, je crois que tu voulais nous parler des SAS. Déjà, tu vas nous dire ce que c'est.
Bah, j'étais très surpris de tomber sur cet article. Alors, les SAS, ça veut dire service d'accès aux soins. Donc, c'est un... Ça découle du Covid, du Ségur de la santé. Donc, c'était directement issu du Ségur de la santé. Alors, par contre, j'ai pas été capable de trouver un numéro d'appel parce que ce sont des départements pilotes et actuellement, il y a la Somme et le Nord pour
donc,
nous, dans les Hauts-de-France.
Chez nous, c'est pas ouvert.
Non, c'est pas ouvert. Alors, ça serait un semi-service d'urgence, si on veut. C'est-à-dire que la personne qui a un problème de santé, elle téléphone à son généraliste qui ne peut pas la recevoir, donc elle appelle le SAS. Le SAVS, il y a un assistant de régulation médicale qui va l'écouter et qui va l'orienter soit aux urgences, soit en médecine générale. Mais bon, bah là, on retourne toujours au même problème. La médecine générale, est-ce que la personne sera vue par un médecin généraliste ? C'est toujours pareil. Et ensuite, en troisième, il y aura la régulation médicale. Donc, il y a un médecin régulateur d'urgence qui peut se déplacer ou un médecin régulateur libéral qui peut également se déplacer.
Donc, tout ça, c'est dans un monde idéal. Donc, pour l'instant, ce n'est pas installé dans l'Oise. Donc, on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, parce que moi, je suis un peu sceptique par rapport aux services d'urgence actuels qui qui marche et puis qui travaille. Je ne comprends pas pourquoi on avait fait ça au Ségur de la Santé. C'était certainement encore une idée d'un technocrate, j'en sais rien, moi je veux bien. Mais j'étais incapable de trouver un numéro de téléphone. J'ai cherché un peu, mais effectivement, l'Oise n'est pas encore département pilote. Bon, apparemment, ils sont sûrs de leur coup. Ça va libérer des charges de travail pour les urgentistes. Bon, on va voir. Je ne sais pas.
Oui, alors, puisqu'on en est là, justement, y a quand même, on entend quand même une petite musique qui nous dit « Oui, si dans les hôpitaux ça va mal, c'est à cause de ceux qui ne se vaccinent pas ». Et moi, j'ai entendu des médecins dire « Mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir ». Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, il y a un médecin urgentiste, Gérald Grzyek, qui a dit que l'hôpital craque, ce n'est pas de la faute du Covid ni des non-vaccinés. Hein, c'est tout ce qui a été fait en amont et qui continue, c'est-à-dire la fermeture des lits. Hein. Et là, on en est quand même... je ne sais plus, on était à 5000 lits à un moment, je ne sais plus où on en est actuellement, mais ça ne s'est pas du tout arrangé.
Non,
loin de là.
Le délire technocratique continue.
Voilà. Il faut gérer l'hôpital comme une entreprise. Ouais. Voilà.
Chaque service devant devenir un centre de profit.
Voilà.
Comme si le profit se faisait à ce niveau-là. Quoi.
Voilà. Donc,
dans le domaine de la santé.
Le Ségur n'a pas avancé non plus là-dessus pour beaucoup. Voilà.
Quand même, il y a une bonne nouvelle là, qui vient d'arriver aussi. Un nouveau vaccin vient d'être accepté par les autorités de santé. Il s'appelle Novavax, mais il ne sera pas disponible avant fin février. Donc pour l'instant, on en est là. On sait qu'il fonctionne et on attend de pouvoir être piqué.
Donc on dit à nos auditeurs et auditrices de trouver un créneau puis de continuer de se faire vacciner avec... L'un ou l'autre, mais apparemment, il y a quand même de quoi faire sur le marché en vaccin. Voilà.
Et d'ailleurs, toi-même, tu vas bientôt être client. Oui, pour une raison que tu vas nous expliquer.
Je me suis retrouvé un peu embêté parce que je ne comprenais pas avec mon tous anti-Covid là, qui n'existe plus. Ça s'appelle autrement, je ne sais plus. Et j'ai été positif en novembre 2020. Donc, pour moi, j'étais parti avec 2 doses, me suffit, c'est tout. C'est pas la peine de faire un troisième rappel. Et puis, mon immunité était tombée à 0 parce que, il y avait trop longtemps que j'étais positif. Donc, c'est comme si que le vaccin était trop éloigné. Donc, faut que je refasse une troisième dose. Et donc, je voudrais quand même prévenir nos auditrices et auditeurs, c'est que ça peut arriver, quoi. C'est pas le fait d'avoir eu la Covid il y a quelques mois ou nombreux mois qui vous a protégé. Maintenant, il faut repartir à 0. Donc, qu'on se le dise.
Oui, et donc il y a ça. Et puis aussi, pourquoi les doses sont-elles si rapprochées ? La raison, elle est simple. C'est que les vaccins qui sont actuellement sur le marché, ils ont été mis au point avec le premier variant.
Voilà.
Et depuis, il y a eu quand même pas mal de modifications dans ce virus particulièrement vicieux.
Bien sûr.
Et les vaccins, il va falloir les adapter. Et c'est pour ça qu'ils sont de moins en moins efficaces au fur et à mesure que des nouveaux variants arrivent, parce qu'ils n'ont pas pu être pris en compte dès le départ. Oh. Et d'ailleurs, je crois que les patrons, aussi bien de Pfizer que de Moderna, ont déjà dit qu'ils étaient en train de préparer des nouvelles versions.
Oui, on va en arriver comme avec le vaccin de la grippe qui change de souche tous les ans, effectivement. Ouais. Donc, c'est toujours une réadaptation au fur et à mesure. Quoi. Ouais.
Oui, il prévoit d'ailleurs même de faire un vaccin combiné.
Ouais.
Grippe. Un peu comme pour les chiens, quoi, qu'on leur fait des vaccins quadrivalents ou pentavalents, nous, ça va être pareil. Ouais. On va être vaccinés comme des clébards.
Voilà. Bon, puis on aura en plus le tétanos, et puis pourquoi pas autre chose, bien sûr.
Oui, alors, une nouvelle intéressante aussi, une étude publiée mardi par l'Agence du médicament confirme bien que les vaccins à ARN messager, donc Pfizer et Moderna, n'augmentent pas le risque cardiovasculaire chez les moins de 75 ans, même s'ils peuvent provoquer quelques problèmes d'arythmie dans les semaines qui suivent la vaccination. J'en suis personnellement le témoin.
Oui, et on connaît un médecin également, et moi je connais aussi une autre personne. Il y a eu des petits soucis d'arythmie cardiaque. C'est curieux, c'était peut-être un peu même angoissant pour les patients, mais
finalement,
il paraît qu'il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire, et d'après le médecin dont tu parlais, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Tu as continué de randonner.
Moi, j'ai continué à marcher comme avant.
couper du bois et tout.
Et je suis revenu toujours chez moi sur mes deux pieds.
Voilà, voilà, d'accord. Ouais. Donc, il ne faut pas s'inquiéter quoi, s'il y a quelques soucis.
C'est un petit inconvénient, mais qui reste petit.
Ouais. Et je pense que j'ai eu un petit-fils, pareil, qui croyait que c'était son cœur qui débloquait. Et il a angoissé et sa mère l'a emmené aux urgences. Il a fait des tests, examens et tout. Il n'y a absolument rien, rien au cœur. Et effectivement, c'était de l'arythmie. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite...
Alors, j'entends dire que le scénario du pire serait passé. Alors... Toi, je crois que tu as quelque chose là-dessus.
C'est le professeur Arnaud Fontanet qui est quand même pas n'importe qui, puisque c'est lui qui préside la commission, comment on peut appeler ça, le conseil.
Conseil scientifique.
Oui, oui. Épidémiologique. Alors, la décrue a commencé au fur et à mesure, là, depuis quelques jours. Hein. Ça a été prouvé et... Donc, il y a eu beaucoup de craintes, effectivement, mais on est en période de décrue.
Donc, on est en période de décrue en Île-de-France.
En Île-de-France.
Ce sont eux qui ont commencé les premiers.
Voilà, c'est ce que. Ouais. Donc, il ne faut pas négliger que c'est en Île-de-France qu'on parle pour l'instant.
C'est pour ça que chez nous, ça continue à augmenter parce qu'on a démarré après.
Voilà, les autres régions, ça sera un petit peu plus tard. Donc, le pic est en train de passer devant nos yeux. Voilà. D'après le professeur Fontanet, qui n'est quand même pas n'importe qui. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a précisé que est-ce qu'on peut atteindre l'immunité collective ? Il dit que à chaque vague, on a renforcé notre immunité, mais il faut que le temps passe et puis on va voir au fur et à mesure. Mais c'est pas prouvé à 100%.
Non, d'ailleurs, c'est ce que disait déjà, je me souviens, du professeur Éric Combes qui était intervenu au tout début de la crise du Covid et il avait dit à peu près la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'en quelques années, ça va se transformer en simple rhume. Mais en attendant, il y a déjà plus de 120 000 morts. Quoi.
Voilà, il ne faut pas être pressé, mais effectivement, on peut constater qu'il y a une légère amélioration. Mais bon.
Je me souviens je ne sais pas si tu étais là, mais quand le jour où le docteur Loïc Penn était venu, il nous avait dit aussi la même chose. Il nous avait dit, si jamais on a Omicron et, comme on le pense, un variant qui est plus contagieux mais moins dangereux que les autres, c'est une très bonne chose parce qu'il va prendre la place des variants plus dangereux.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'était pas une mauvaise remarque.
C'était une bonne analyse.
Oui. Ensuite, dans tes statistiques nombreuses et variées.
Alors, moi, ce qui m'a interpellé aussi, c'est qu'on a enfin ouvert la vaccination aux 12-17, et en particulier le rappel de vaccins pour eux. Puisqu'on a vu que c'était eux qui, pour l'instant, étaient les moins vaccinés, vu qu'ils ont démarré les derniers. Deuxième dose, évidemment, elle est encore. Ils sont encore très peu nombreux à avoir eu la deuxième dose. Et donc, on va commencer par ceux qui vivent aux côtés de personnes fragiles. Donc, par exemple, les immunodéprimés.
Et j'ai entendu, en parlant de vaccination, qu'à Crépy, il y a un deuxième centre qui serait ouvert. Il y aurait deux centres de vaccination, donc à confirmer ou à voir, ou se renseigner, quoi, c'est tout. Mais bon, apparemment, il n'y aurait pas trop d'attente pour les demandes, je ne sais pas. Mais moi, il va falloir que j'y passe, puisque j'étais positif il y a trop longtemps. Voilà. Ensuite.
Moi, je suis éligible à la quatrième dose, si un jour il faut la faire.
Voilà.
À partir du mois de février.
Ah oui.
Un chiffre intéressant aussi que j'ai entendu juste avant de venir, donc dans les Hauts-de-France, par rapport au nombre de personnes vaccinables, il y en aurait environ 400 000 qui ne seraient toujours pas vaccinées, du tout. Donc, ça serait bien qu'ils se dépêchent parce que.
Ils
sont en train de faire circuler le virus.
Oui. Alors, c'est pareil. J'avais une histoire sur les autotests. Alors, on en trouve à peine 10 euros. Chez le pharmacien, 26 euros les 5. Je ne sais pas.
Là, J'en ai vu ce matin à Intermarché.
À combien ?
Ah, je n'ai pas regardé.
Tu n'as pas regardé les prix, Alors, je ne sais pas. Donc, c'est à voir. Moi, j'ai un gars qui m'a dit que même avec de l'eau du robinet, on fait couler sur le test, il passe positif. Alors, je ne sais pas.
Ça veut dire que l'eau du robinet est contaminée.
Elle peut, puisqu'on fait des recherches dans les écoulements, les eaux usées. Sinon, point de vue Covid, vaccination, immunité, on a fait le tour là à peu près.
Donc il y a eu une grève des enseignants il y a quelques jours, une deuxième, justement pour protester contre ce protocole sanitaire délirant mis en place par le ministre depuis son séjour merveilleux aux îles Baléares. Et apparemment, les enseignants ne sont pas très convaincus par tout ce qu'il a pu dire et toutes ses justifications, puisqu'ils ont remis ça. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi les collectivités locales qui commencent à se bouger, et en particulier pour les capteurs de CO2.
Oui. Hein.
Donc j'explique un peu de quoi il s'agit. Hein. C'est un petit appareil qui mesure la concentration de CO2 dans une salle. Et quand elle atteint un certain seuil, ça signifie qu'il faut ouvrir et aérer très rapidement. Sinon, on risque de laisser le virus se balader dans la salle, dans la salle de classe.
Voilà.
Donc, j'ai trouvé dans un journal, c'était sur Europe 1 qu'ils ont raconté ça. Voilà, ils ont expliqué ce qui se passait dans le Sungo, c'est-à-dire dans le sud de l'Alsace, département 67. Mmh. Hein. Eh bien, là-bas, y a déjà 64 communes qui se sont équipées. Ils ont donc mis des capteurs dans 150 salles. Et ça a coûté 15 000 euros.
À qui ?
Et qui est-ce qui a payé ? C'est la communauté de communes.
Voilà. Voilà.
Donc on passe le message à la communauté de communes du Pays de Valois.
Voilà.
Si jamais elle est intéressée par cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves réagissent très bien à ça et ils ont très bien compris comment ça fonctionne. Ils ont très bien compris à quoi ça sert. Et ce sont eux les premiers qui alertent l'instituteur ou l'institutrice pour lui dire « Monsieur, madame, ça y est, on a atteint le taux, il faut ouvrir.
Ouais. » Ouais.
Donc voilà, ça c'est une bonne formation citoyenne, je trouve.
J'avais eu les prix, mais je ne me souviens plus, mais ce n'est pas énorme.
Tu as 150 appareils, 15 000 euros.
Oui, c'est ça. Oui, bon. Oui.
On ne va pas faire la division parce qu'on est très mauvais en maths.
Oui, mais il faut le... Il faut le mentionner, oui, que c'est la collectivité qui paye. C'est pas l'éducation nationale, ni l'État, ni la CPAM. Voilà.
Non. Eux, ils ont oublié.
Moi, je voulais juste dire que j'avais eu une statistique sur les dépassements, les dépassements d'honoraires sur les spécialistes, que les dépassements ont augmenté, étaient passés de 37% en l'an 2000 à 50% en 2020. Donc ça représentait une charge pour les mutuelles, puisque la Sécurité sociale ne veut pas en tenir compte, c'est normal, une charge de 7,6 milliards d'euros en 2019 pour les mutuelles.
Oui, donc on risque de voir nos cotisations de mutuelles augmenter.
Voilà, ça faisait 21% d'augmentation. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire quand même, chères auditrices et chers auditeurs, que le 26, nous avons notre assemblée générale de notre association pour la création d'un centre de santé dans le Pays de Valois. Rendez-vous à 18h30 à la salle des fêtes de Crépin-Valois. Voilà. À jour ou pas à jour de vos cotisations. Et puis n'oubliez pas que notre émission, donc on était à la 127e, notre émission est diffusée le mardi à 13h. Le jeudi à 16h et le samedi à 10h30, plus en podcast. Merci.
Au revoir.